dans la tête des entrepreneurs vous est présenté par CKRL 89.1.
Bonjour, bonjour, bonjour. Ici Kim Auclair. Je suis vraiment contente de vous retrouver pour une nouvelle émission dans la tête des entrepreneurs, mais surtout, 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 une nouvelle saison. Vous allez remarquer qu'il y a quelques petits changements techniques qui vont se passer au courant de l'émission, dont l'ajout de petits moments musicaux, si on peut dire. Donc, pour moi, c'est toute une nouvelle expérience de tester cette formule-là. Et ce matin, je suis accompagnée de ma co-animatrice ou metteur en ondes, peu importe, Julie Collin.
Bonjour.
Allô, Julie. C'est un plaisir pour moi de te retrouver ce matin en ondes. Alors, comme d'habitude, si tu veux intervenir, tu es la bienvenue dans l'émission.
Merci.
Ça fait plaisir. Alors, comme qui a été annoncé quelques minutes plus tôt, on va parler aujourd'hui d'économie collaborative. Et j'ai comme invité un jeune entrepreneur de 21 ans. C'est toujours spécial d'avoir des entrepreneurs aussi jeunes à l'émission. Donc, pour moi, c'est tout frais, c'est tout intéressant comme contenu. Alors, ce jeune entrepreneur-là s'appelle Liam Garneau et il est fondateur de l'application Parc qui est une application qui permet de rentabiliser les espaces de stationnement libre. Et on va parler autour, en fait, ça c'est de l'industrie d'économie collaborative et c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, moi je trouvais ça intéressant de savoir c'est qui Liam Garneau. Allô Liam!
Salut, merci de me recevoir.
Ça fait plaisir, parle-moi de toi un petit peu.
En fait, Liam Garneau, je suis un jeune de Québec comme tu as dit, donc j'ai pas vraiment, je dirais... T'sais, j'ai 21 ans, donc j'ai pas beaucoup de background dans l'entrepreneuriat, je pourrais dire.
Oui.
Donc, regarde, j'ai un parcours typique de jeune. Là. J'ai un DEX en mention au cégep. Donc, j'ai fait le cours aussi à l'école d'entrepreneuriat de Garneau.
Oui.
Ça, c'est un cours qui dure de mémoire 6 mois, donc qui t'aide.
Est-ce que tu as suivi ça, dans le fond, tu as été au cégep, puis tu as suivi ça après?
J'ai fait deux sessions au cégep. J'ai pris un an off, entre parenthèses, donc pour faire ce cours-là. Okay. Par la suite, j'ai fini mon DEC, donc les deux dernières années que j'ai faites au cégep. Donc, j'ai appris beaucoup par ce cours-là, donc vraiment les bases en affaires. Sauf qu'il n'y a rien de tel non plus que de se lancer pour de vrai, puis de le faire là, sur le terrain.
Oui.
Mais c'est intéressant quand même d'avoir des bases pour savoir où s'enligner là-dedans, parce que tu sais, les affaires, c'est pas facile, puis c'est de quoi qui... Personne ne recette magique comment se lancer en affaires. Donc là, je donnais des bases, mais c'est pas tout non plus. Pour ça, faut que tu ailles sur le terrain et puis tu.
Mais comment tu as vécu ton expérience, en fait? Est-ce que c'est un entrepreneur inné? Est-ce que tu as une famille entrepreneuriale? Ça vient d'où pour toi, la fibre?
J'ai mon père qui est entrepreneur, donc okay. Lui m'a toujours, je pourrais dire, guidé dans ce côté-là. J'ai toujours vu qu'est-ce qu'il faisait, puis j'ai trouvé que c'était intéressant aussi. C'est beaucoup de travail, mais il y a une certaine liberté que tu peux aller chercher. Puis aussi un certain dépassement de soi aussi que tu peux aller chercher. J'ai un de mes oncles aussi qui est entrepreneur, donc j'ai toujours été entouré d'entrepreneurs depuis que je suis jeune. Donc c'est toujours une chose qui m'a attiré, mais c'est comme n'importe quoi, si tu l'essayes pas, tu peux pas savoir si c'est vraiment fait pour toi.
Non, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est comme ta première aventure avec Parc.
C'est ça, ouais.
Oui. Et comment peux-tu nous dire comment ça t'est venu, l'idée?
En fait, c'est un problème que j'ai vécu, mais que je vivais souvent.
Oui.
Donc, en tant que jeune, j'ai pas beaucoup d'argent pour me prendre une vignette au cégep pour le stationnement. Oui. Donc, là, un matin, comme tout bon étudiant, je me suis levé en retard.
Oui.
Le matin d'examen. Donc, je suis arrivé, puis j'habite quand même assez loin du cégep Garneau. J'habite au lac Beauport. Donc, là, surtout l'hiver, c'est assez long se rendre à l'école. Le matin, je me suis levé en retard. J'ai mon examen. Donc, là, je me prépare, je cours, je suis stressé. Donc, j'arrive autour du cégep. J'ai pas de place pas à moi. Donc, je me stationnais tout le temps autour du cégep, donc dans les rues. C'est toujours des 60 minutes, 90 minutes, donc c'est pas très long. Je suis arrivé en retard, donc j'ai trouvé une plage, je me suis stationné. J'ai couru, je suis arrivé en retard à mon examen. Au final, j'ai coulé mon examen. Je suis revenu à ma voiture. J'avais une contravention, en plus. Puis de mémoire aussi, j'ai coulé ce cours-là.
Oh non, c'est vrai?
En plus.
Fait que ça t'a resté pas mal marqué. Mais dis-moi, est-ce que t'avais développé le cours entrepreneuriat? Tu commençais à l'école entrepreneur?
Non, mais ça, en fait, c'était pendant mon DEC.
OK, pendant ton DEC. OK, mais fait que ça t'a resté marqué.
Pendant cette matinée-là, par contre, je virais autour du cégep.
Oui.
Mais puis j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de maisons qui avaient des espaces libres. Le monde allait travailler le matin, puis ils laissaient leur espace libre, puis il n'y avait personne de stationner. Donc, je me suis dit, ce serait peut-être intéressant de pouvoir se stationner chez les personnes. Je sais qu'il y a des personnes qui le font déjà, qui le louent, qui le mettent sur, mettons, sur Kijiji, puis qui le font par eux-mêmes, mais il n'y a pas vraiment de plateforme à Québec qui était développée pour répondre à ce besoin-là, donc c'est là que j'ai eu l'idée de développer. Là.
T'avais déjà parlé de ton idée à tes amis, ensuite, comment ça s'est passé par rapport à ça?
Mais au début, c'était beaucoup la famille, donc mon père, justement, qui est entrepreneur, oui? J'en ai parlé, puis c'est lui qui m'a guidé là-dedans, m'a dit peut-être que ce serait intéressant que tu mettes le projet là, de l'avant.
Et ça fait partie un peu du modèle de l'économie qu'on appelle collaborative quand on parle Airbnb, tous ces Airbnb de ce monde et tout ça. Donc, c'est un peu le même principe. On partage quelque chose. Oui. Et comment la réception, comment ça s'est développé, ton projet, la réception de ton projet auprès de ta communauté, les premiers clients, à quoi ça ressemblait?
En fait, développer le projet, ça, c'est le bout qui est facile. Lancer l'entreprise, c'est le bout qui est facile. Oui. Puis c'est là, après, qui est le développement qui est très difficile.
Oui. Là, ça fait un an, ça?
Ça fait un an, oui. J'ai lancé le 1er juin.
Ah, la date de ma fête, je vais m'en souvenir.
Ça fait pas très longtemps. Oui. Au début, ça a été très, 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 très difficile à lancer. Oui. Premièrement, dans ce genre d'entreprise-là, il faut que tu ailles chercher deux types de clientèle. Tu as les propriétaires, de l'autre côté, tu as les utilisateurs payeurs qui louent des espaces. Mais d'un premier temps, il faut que tu ailles chercher une banque de stationnement d'espace, sinon ton entreprise n'est pas viable, tu ne peux pas offrir quelque chose.
Tu as listé toutes les maisons qu'il y avait autour du cégep?
Ben, il a fallu que j'aille voir des personnes.
Oh,
j'ai fait du porte-à-porte.
Aïe, aïe.
J'ai fait Facebook, tout ça. J'ai fait plusieurs démarchages.
Des pages jaunes?
Non, ça, je n'ai pas fait, par contre. C'était plus en ligne. Mais c'est ça, donc c'était vraiment difficile au début d'aller chercher deux types de clientèle pour avoir... Tu sais, pendant longtemps, tu n'as pas vraiment de revenus qui rentrent, puis c'est pas facile de faire vivre ton entreprise.
T'avais-tu un emploi en même temps ou...
Ben, un petit peu. Je travaillais aussi pour... je faisais du marketing pour une autre entreprise.
Okay.
Mais ça a été très difficile d'aller chercher mes premiers clients. Donc, puis il y a beaucoup de clients aussi. Tu sais, quand tu as 6 mois, pas de location, des fois, les clients disent « OK, ben garde... » c'est un stationnement qui ne se rentabilise pas. Ils disaient, OK, bon, on va l'enlever. Donc, des fois, c'était des hauts puis des bas. Il y en a qui se rajoutaient, il y en a qui partaient. Donc, c'était pas facile.
C'est quoi le modèle d'affaires de parc?
Mais en fait, c'est très, très simple. Donc, il y a des propriétaires qui enregistrent leur espace.
Oui.
Qui choisissent leur disponibilité. Donc, autant. Ils peuvent mettre leur espace disponible à l'heure, à la semaine, à la journée, au mois. Donc, c'est flexible pour eux. Sauf que nous, le plus facile pour les propriétaires, c'est de mettre leur location au mois.
OK.
Puis après, ils choisissent leur prix. Donc, 2 $ de l'heure. 30 $ la semaine, 100 $ le mois. Par la suite, ils le mettent disponible. Là, il y a du monde qui peuvent le louer n'importe qui.
Ça serait quoi l'apprentissage que tu as fait jusqu'à présent? Là, on parle d'un an, démarrage. Tu as dû peut-être ajuster ton produit, la façon de le présenter aussi?
Non, ben, au début, c'est beaucoup mon image d'entreprise. Je suis tombé avec une image beaucoup plus sérieuse. Au début, c'était plus funky, plus le fun.
Oui.
Je suis tombé avec une image plus corpo. Je peux dire que ça l'a aidé. Peut-être que les mondes étaient plus en sécurité de mettre leur espace dans une entreprise qui était plus...
Gagner en crédibilité, si ça a dû être quelque chose. Tu es un jeune entrepreneur. Comment tu as fait pour que les gens te prennent au sérieux?
Ben, le fait que je sois jeune, ça m'a jamais bloqué, je dirais.
Okay.
Ça n'a jamais été... T'sais, je me mettais à leur parler, puis ça allait bien. Puis, t'sais, Mané, c'est beau être jeune, mais c'est ton vécu aussi qui fait qui tu es. Là.
Oui.
Mais ça n'a jamais été vraiment un blocage. C'est sûr que des fois, tu arrives dans la pièce, puis le monde te dit, OK, c'est quoi? C'est qui? Est-ce que c'est vraiment lui qui veut me présenter son projet ou c'est... C'est un employé dans l'entreprise. Ça arrive.
Est-ce que tu as fait des pamphlets, des diffusés un peu dans les portes ou tu es vraiment allé cogner?
C'est des pamphlets, je n'avais. Le porte-à-porte, le monde, il aime pas ça plus qu'il faut. Là.
On répond plus vraiment au porte-à-porte pour vendre des crayons, tout ça. Personnellement, moi, je déteste ça. Fait que dans le fond, je me demandais comment les gens allaient recevoir ton idée. En fait,
c'était un peu du faux porte-à-porte que je faisais.
Ah, OK.
Je faisais du porte-à-porte, mais c'est le monde qui était dans la rue que j'abordais. Là. J'allais pas cogner à toutes les portes pour voir, pour parler à tout le monde. Le monde, ça, il aille ça. Là. Je l'ai essayé, puis le monde, il aime pas ça. T'arrives à 5 heures, le monde, ils sont prêts à souper, ils sont tranquilles chez eux. Tu cognes à la porte, tu veux leur parler, le monde, ils sont pas réceptifs du tout.
Puis là, t'as une petite équipe avec toi?
Oui.
Oui. Comment tu décrirais un peu toi par rapport à ton équipe, puis qu'est-ce... Qui est ton équipe et fait quoi?
Ben en fait, mon équipe et moi, c'est un tout. Je serais rien sans mon équipe.
Oui,
là.
Oui, effectivement.
Donc là, ben, en fait, j'ai 2 développeurs qui travaillent. Ben, on est 3 dans l'équipe, en fait. Là. Okay. 2 développeurs et moi.
Puis toi, t'es quoi? T'es le créatif, l'entrepreneur, le porte-parole?
Ben, en fait, je suis cofondateur, en fin de compte.
Oui, OK.
Il y a Tristan Olivier aussi qui est avec moi. Donc lui, c'est lui qui est le développeur, puis c'est lui qui manage tout ça, le côté développement. Donc moi, j'ai pas de connaissance là-dedans, puis c'est lui qui lead le tout, là.
Dirais-tu que tu es un gars de plus de vente ou plus...
Ben, je suis plus terrain, je dirais. Je suis moins...
Plus terrain?
Ouais.
T'aimes rencontrer les gens, moi, faire un peu la même chose.
Mais ça, faire du démarchage, tout ça, c'est ce que j'aime le plus. Puis lui, le côté technique, puis toute la logistique derrière, c'est lui qui l'a mis.
Là, le bending, est-ce que c'est lui qui avait le même il y a un an ou ça l'a pas mal évolué?
Non, il a évolué beaucoup, oui, beaucoup, oui. Beaucoup. Notre image, même que semaine prochaine ou l'autre d'après, on a un nouveau site.
Ah oui, un nouveau site?
Oui.
Ben, en fonction
ben, une nouvelle des image, une nouvelle façon de plusieurs... en tout cas, voir plusieurs choses différentes là, qui s'en viennent.
Vous écoutez pas mal
le feedback.
Les commentaires des clients.
Oui, on n'a pas le choix. C'est eux qui nous font... qui nous créent, en fin de compte. Là. Donc, dès qu'on a un feedback, on le prend en note puis on regarde comment on peut l'intégrer à notre plateforme. Puis si c'est viable aussi, des fois, le monde, il parle sans... Mais en tout cas, on prend tout le bon feedback puis on essaie de répondre aux clients.
Quand on démarre une entreprise, souvent, ouais, on a des grandes idées, mais c'est là, justement, avec les feedbacks, on essaye de commencer plus bas possible, ne pas trop exposer toutes nos idées pour voir si c'est vraiment un besoin.
Oui, non, c'est ça. Il faut commencer par commencer, maintenant.
Ben oui, c'est ça.
Tu lances ton entreprise, c'est le moins de services. Mais le moins de services. Tes services de base, tes offres, ça, tu montes ton entreprise avec ces services de base-là, puis par la suite, tu peux commencer à construire autour. Mais il faut que tu commences par lancer quelque chose. Tu peux pas attendre que ça soit
non,
parfait.
Non, non.
Tu peux pas attendre... Si je voulais vraiment que ça soit parfait, je n'aurais pas encore lancé, je pense. Là.
Non, non. Fait que dans toi, tu as eu l'idée, tu t'es lancé tout de suite, puis en plus, tu as eu une espèce d'accompagnement qui t'a aidé à déterminer le modèle d'affaires, de pouvoir en créer une entreprise et tout ça.
C'est ça.
Puis tu dirais que comment ça s'est passé, le plus... En fait, une erreur que tu as faite de démarrage, ce serait quoi?
Une erreur de démarrage? Des erreurs, je pourrais dire que j'ai... Je dois en faire toutes les semaines, là.
Ah ouais?
Mais je pourrais pas dire que j'ai des grosses erreurs majeures que j'ai fait qui m'a fait mal dans le lancement. Sauf que, tu sais, à chaque erreur, t'apprends puis tu t'ajustes. Mais j'ai pas d'erreur que je pourrais dire que, oh non, j'ai fait ça puis je le regrette. Je l'ai fait en avance, mais j'ai rien non plus que fait mal à mon entreprise pour que je m'en souvienne puis que je t'en parle en ce moment, mais j'ai...
Écoute, Liam, on va prendre un petit moment musical et on revient dans quelques instants.
Merci.
De retour, c'est la première fois que je mettais un moment musical, donc je ne savais pas trop comment ça allait passer, mais je vois l'avantage, ça nous permet vraiment de partager l'émission sur Facebook et de se reposer un peu la voix. Alors, nous sommes de retour. Écoute, Liam, on a parlé un peu de toi et de ton parcours. On est terminé avant le moment musical. C'était quoi un peu les erreurs que tu avais faites? Donc, tu fais des erreurs un peu à chaque jour, comme tu disais, à chaque semaine, en fait.
On apprend tous les jours avec
toi. Oui, c'est ça. Et parle-nous un peu, c'est quoi les erreurs? Là? C'est des exemples à quoi qu'on doit s'attendre quand on se lance comme ça?
Des erreurs de quand qu'on se lance. Là, tu m'en poses une bonne. Ben, comme je t'ai dit, j'ai jamais fait vraiment de grosses erreurs, mais c'est surtout la façon peut-être d'approcher le monde quand tu veux développer mettons, un partenariat ou autre.
Oui.
Puis c'est beaucoup dans les relations humaines que tu apprends comment vivre avec ça, là. Donc, si tu approches une telle personne, puis tu as une façon de l'approcher, ben souvent, tu apprends comment l'approcher, puis ça, c'est en faisant des erreurs, là. Donc, souvent, comme je t'ai dit tantôt, tu sais, je suis pas vieux, puis le monde, des fois, me prend pas au sérieux, donc je dois agir comme si j'étais plus vieux, là. Ben, je dois me faire... Parce que là, je réfléchis en même temps, puis ça n'a pas trop de sens, ce que je dis, là. Mais je dois... Comment dire? Je dois prendre une position qu'un gars de 21 ans prend pas tout le temps. Dans certains contextes. Des fois, quand je travaille avec du monde, des fois, ils ont 50 ans, 60 ans. Donc, quand ils me voient, c'est... Ils s'attendent à ce que
T'es qui, toi?
Mais c'est ça. Puis, ils s'attendent à ce que je sois quelqu'un... Mais que je travaille comme quelqu'un de plus vieux, malgré mon âge. Donc, ça, c'est sur le coup, moi, il y a certains réflexes que j'ai pas, je pourrais dire. Donc, que je dois aller chercher. Puis ça, c'est en venant des erreurs, justement, que je vois comment agir avec ce genre de personnes-là. Là. Donc, c'est beaucoup dans des contextes d'interaction avec les gens que je trouve que c'est les plus grosses erreurs qu'on fait.
Chaque personne est complètement différente. Donc, il y en a qui vont avoir des approches plus dures. Donc, tu dois développer un peu ton message, des techniques pour ça.
En tant qu'entrepreneur, je pense que c'est le côté social qui est le plus important.
Okay,
on travaille avec des gens tous les jours. Donc, c'est vraiment ce côté-là. Si tu te fais aimer, ça va bien aller. Si tu te fais pas aimer, puis tu te prends pour un autre, puis c'est là que ça va pas bien aller, là. Donc, dans ce côté-là, il faut que tu développes. C'est ce côté-là que j'ai eu le plus de problèmes au début, je pourrais dire. J'étais peut-être pas prêt à rentrer dans ce milieu-là avec des gens d'un certain âge automatiquement.
Mais pourquoi tu parles des gens d'un certain âge? Ceux qui sont autour, que tu t'es approché, c'est vraiment des gens, c'est pas des jeunes qui habitent
là? Des gestionnaires immobiliers, par exemple.
Il
y en a qui mettent des espaces sur notre plateforme, puis ils veulent que je les rencontre.
C'est plus des gestionnaires de immobilier qu'ils font, et non des propriétaires de maisons.
J'ai les deux vraiment. Donc il y en a beaucoup ça. Puis tu sais, ça c'est beaucoup de monde. Ça fait longtemps qu'ils sont dans le milieu, puis ils ont pas 23 ans, ce genre de monde-là. Donc faut que tu leur amènes un projet sérieux. Faut que tu saches parler de ton projet, puis faut que tu aies de l'air sérieux toi aussi là. Donc on va pas faire affaire avec le petit gars de 21 ans qui arrive avec un petit top qui marche à moitié, puis qui sait à peine parler de son projet, puis qu'est-ce qu'il fait. Donc, c'est là, faut que tu développes des capacités pour pouvoir autant vendre, mais aussi, tu sais, des capacités humaines qui fait que tu as une bonne interaction avec la personne.
Chaque rencontre est bien préparée, au fond.
Mais oui, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Vraiment, c'est ce qui est le plus important, c'est les rencontres, puis c'est les gens que tu rencontres. D'après moi, ce qui définit un entrepreneur, c'est toutes ses relations pendant son parcours.
Oui.
Donc, c'est le respect sur le long terme qui va te valoriser. C'est si tu respectes un entrepreneur maintenant, c'est lui qui va t'aider quand tu vas te planter plus tard, si jamais tu te plantes. C'est beau, tu peux arriver puis casser des murs puis envoyer promener tout le monde. Sur le court terme, ça peut marcher, mais sur le long terme, c'est sûr que c'est pas viable. Donc c'est ce côté-là qu'il faut le plus valoriser en tant qu'entrepreneur. Là, c'est tu t'appuies, tu t'entoures des bonnes personnes, tu respectes le monde, puis c'est ça qui va te...
Mais là, votre application est pas juste à Québec, que j'ai vu qu'elle est à Toronto.
Oui.
Toronto, Ottawa.
Québec, okay. Montréal, Gatineau, Toronto.
OK.
On a à Trois-Rivières aussi, mais en tout cas, j'ai inclus ça dans...
Comment tu te fais pour avoir autant de maisons partout, d'établissements?
100% en ligne. Ça, c'est vraiment des démarchages en ligne, des publicités, donc différentes
Tu as investi comment de publicité en pub?
Je pourrais pas te le dire, là, vraiment. Là, c'est...
50 millions?
Non. on aimerait ça, mais non. C'est autant, je peux pas dire que j'ai investi des grosses sommes, mais c'est beaucoup du temps que j'ai mis.
Donc, du temps, oui, c'est ça.
T'sais, je suis jeune.
Le seul investissement qu'on a en tant qu'entrepreneur, c'est notre temps plus que de l'argent.
Oui, puis quand tu n'as pas beaucoup d'argent à mettre en marketing, ben tu tombes plus créatif dans les moyens d'approcher le monde. Donc, c'est là que je réfléchissais puis je me disais de quelle façon je peux aller chercher cette personne-là Sans que ça me coûte une scène.
Et donc, comment tu fais pour trouver les courriels directement, les bonnes personnes?
Courriels, ça, je réussis pas, mais tu sais, il y a plusieurs plateformes qui mettent en relation des gens. Donc, tu sais, Facebook, des groupes, tu sais, j'allais n'importe où, est-ce que je peux trouver du monde.
OK.
Je me mettais, tu sais, je passe des vendredis soirs, des 4 heures à faire ça, là. Tu sais, je vais pas prendre un verre avec mes amis, moi, je cherche du monde, puis je...
C'est correct, on passe tout par là. On passe tout par là, fait qu'on met des petites publicités à gauche, à droite, puis tout ça. Fait que tu réussis quand même à aller chercher des gens un peu partout. La façon d'approcher les gens, est-ce qu'elle est différente, par exemple, à Trois-Rivières, Québec? Est-ce qu'il y a des messages que tu te rends compte qu'il faut que tu adaptes autrement?
Mais en fait, je remarque que le monde sont beaucoup plus réceptifs à Montréal qu'à Québec.
Pourquoi?
C'est Montréal, c'est une ville où est-ce que le problème est beaucoup plus présent.
Oui.
Donc, le monde sont prêts. T'sais, aussi, c'est drôle à dire, mais le loyer aussi, il est plus cher à Montréal qu'à Québec. Donc, c'est le fun de faire un petit revenu supplémentaire en tant que propriétaire quand t'es pas là le jour. Donc, ça peut couvrir certains frais de tes dépenses. Mais à Québec, t'sais, le stationnement, il y a un besoin, mais il est pas aussi criant qu'à Montréal ou qu'à Toronto, par exemple. Donc, c'est une approche qui... T'sais, à Montréal, c'est plus facile d'aller chercher du monde qu'à Québec, par exemple.
Oui. Fait que dans le fond, là, tu t'approches un peu un par un, chaque personne. Et ouais. Comment c'est répertorié? Comment tu fais... on fait pas répertorié, mais comment tu arrives à faire le suivi aussi pour être sûr qu'ils vont laisser les espaces libres et tout ça?
Mais ça, on envoie une infolettre à chaque mois.
OK.
Donc, seulement, ils ont des nouvelles de nous tout le temps. Là. Je voulais pas qu'il y a du monde qui met de leur espace puis qui pense que l'entreprise stagne puis ça avance pas. Donc, à chaque mois, j'envoie une infolette avec nos nouveautés. C'est sûr que j'essaie de tenir les propriétaires au courant qu'on est encore actif puis qu'il n'y a pas de location, ça s'en vient.
OK.
Puis des fois aussi, je montre des exemples de ce que le propriétaire peut faire en termes de revenus, par exemple. Donc, ça, c'est des choses que le monde, que les propriétaires peuvent voir passer. Donc, c'est motivant de voir aussi que leur espace de
qu'est-ce
stationnement
est utilisé. Qu'est-ce que les autres font puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire aussi.
C'est ça, ouais.
Et dans le fond, toi, tu t'adaptes. C'est vraiment du cas par cas, mais en même temps, tu as des exemples à montrer aux personnes et tout ça. Et dans le fond, tout ça, ça passe directement sur ton site web. Est-ce qu'il y a une version, la version site web est différente que celle du mobile?
Ben, c'est similaire, sauf que le site web, ça explique plus notre offre.
Oui.
Puis l'application mobile, c'est plus vraiment pour réserver, pour mettre ton stationnement en location.
Et comment qu'on assure parce que c'est souvent un problème quand on parle d'économie collaborative, c'est le partage, mais c'est aussi la sécurité des gens, la confiance des gens au service. Et comment tu t'arrives à convaincre les gens par rapport à ça?
C'est sûr que quand on y pense, un espace dans la rue, c'est moins sécuritaire qu'un espace chez un privé. Donc déjà là, se stationner chez Monsieur Tout-le-Monde, c'est plus sécuritaire que se stationner dans la rue, puis il y a beaucoup de monde qui passe à côté. Il y a du monde qui se stationne en parallèle devant toi, donc il y a plus de chances que ton auto soit brisée. Donc ça, j'ai jamais eu de problème vraiment avec le côté sécurité. Je dirais le monde se sent plus en sécurité de faire affaire avec nous que de se stationner dans la rue dans un lot public qui a plus de voitures puis il y a plus de trafic.
Donc dans le fond, puis aussi, est-ce qu'il faut mesurer un peu les espaces qui sont disponibles? Y a-tu quel genre d'informations qu'il faut fournir?
En fait, nous, les informations qu'on demande, c'est très simple. C'est l'adresse des photos.
Oui.
C'est les montants que tu désires recevoir à l'heure, à la journée, à la semaine, au mois. On n'a pas de questionnements concernant l'espace. C'est un stationnement, c'est une certaine dimension. Puis si tu essaies de stationner le monde dans ta cour d'entrée, là, ça marche pas. Puis nous, on le voit, puis on voit. Dans ta cour d'entrée, sur ton gazon, par exemple, ça marchera pas. Là, nous, on va le bloquer.
J'ai une question depuis tantôt dans ma tête. En tant qu'entrepreneur, comment t'as fait pour... est-ce que tu te connaissais en stationnement?
Non.
Avant
non,
de non, comment t'as fait pour ramasser toutes ces... On parle d'informations que tu dois fournir, tout ça. Comment t'as fait pour savoir quelles spécifications il fallait fournir?
Ben, c'est j'ai travaillé avec mes développeurs, puis on a regardé ce qui est intéressant à mettre. Donc, dans la fiche du propriétaire, puis c'est là qu'on est... Tu sais, un stationnement, c'est pas magique non plus. Il y a rien de sexy là-dedans. Donc, c'est un espace de béton par terre. C'est un espace qui est très important pour tout le monde tous les jours. Là.
Oui.
Donc, c'est quand on y pense, tu sais, c'est sûr que là, on va sûrement s'adapter aussi. Il y a sûrement des choses qu'on n'a pas pensé puis que ça va venir plus tard. Mais, tu sais, à la base, ce qu'il faut, c'est une place pour stationner. C'est le prix que tu vas payer. Puis, c'est la journée de 8 à 5 heures, par exemple.
Oui, oui.
Donc, ça, on est allé à la base, puis là, jusqu'à maintenant, ça va bien, donc il n'y a pas de problème là-dedans. Mais on va sûrement avoir des choses à rajouter par la suite. On aimerait aussi intégrer les portes de garage qui s'ouvrent, par exemple. Donc ça va être des choses plus tard qui vont être intégrées. Mais là, pour l'instant, on le fait
dans les portes des garages, tu veux vraiment...
Les souterrains, par exemple. Okay, c'est quelque chose qu'on aimerait intégrer plus tard. Mais là, par contre, on n'a pas la technologie encore développée, mais ça, on y pense.
OK.
Mais là, on ne peut pas encore l'intégrer vu que c'est pas développé et tout ça. Mais on a commencé par mettre l'espace facile d'accès devant chez toi. Par la suite, on va commencer à développer.
On va revenir un peu à ton profil d'entrepreneur. Tu dis que tu fais du marketing un peu d'un autre côté, donc tu dirais que c'est un peu ta grande force.
Mais j'ai travaillé pour La Vie Sportive.
OK.
L'entreprise qui était sur Bouvier, elle a été vendue il n'y a pas très longtemps. Donc, j'étais dans l'équipe marketing web.
OK.
Dans le temps. Donc, ça, je l'ai fait.
Quand même, marketing web.
Environ un an.
21 ans, ouais, c'est bon.
Non, c'est ça. C'était bien. J'ai fait ça pendant un an environ. Puis là, suite à la vente, j'ai arrêté, puis j'ai Là, je suis à temps plein, c'est mon entreprise.
OK. Fait que dans le fond, ton entreprise, vraiment, tu t'en gagnes? Tu continues d'étudier en même temps?
Ben là, je suis pas à l'université, là. Je commence la prochaine session. Mais okay. Oui, j'arrête pas d'être vraiment... étudiant. C'est ça, je veux finir mon bac. Je trouve que c'est un backup intéressant. T'sais, c'est bien beau de dire qu'on lâche l'école tout de suite, puis qu'on se lance dans l'aventure. Mais faut toujours avoir un pied à côté qui dit, tiens, je vais... Si jamais je me plante, mais j'ai un backup, puis je peux faire quelque chose de ma vie encore. Mais là, je me concentre aussi sur mon entreprise. Je vais voir comment que ça va. Là.
C'est quoi que tu prévois là actuellement par rapport à ce projet-là? Tu vois-tu, tu veux changer le monde dans le parking ou c'est quoi?
Et là, c'est changer le monde dans le parking. Pour l'instant, ce que je veux vraiment, c'est de développer Québec, Montréal, Gatineau, Toronto.
Oui, bien le développer, le contrôler. Là.
Oui, bien le développer, puis avoir des gros parts de marché, mais je veux pas non plus me faire de fausses idées. Tu sais, là, je me bats contre un gros marché. Le stationnement, c'est un gros, gros marché.
Oui, oui.
Tu sais, quand on pense, les parcomètres sur le bord de la rue sont là depuis 1935, je me souviens bien. Donc, okay. je peux pas arriver du jour au lendemain. Ça fait un an que j'ai lancé. Non. Puis là, je veux faire changer les...
Là, c'est juste en français ou en anglais?
Les deux, français-anglais.
OK. Puis quand tantôt, on parlait de clientèle, d'approche, la clientèle anglophone, est-ce qu'elle est différente que la clientèle francophone, les réactions?
Mis à part la langue, il n'y a pas...
Non?
Il n'y a pas de différence, c'est sûr. Mais là, à Toronto, je suis pas encore très développé, mais ils sont très réceptifs. Là-bas, c'est un gros, gros problème, le stationnement. Là. Encore plus qu'à Montréal. Tantôt, je comparais Montréal à Québec, mais Québec à... Montréal, là, ouais. Fait que Montréal à Toronto, c'est encore un plus gros gap entre les deux, là.
Avais-tu fait une étude de marché?
Oui, je n'ai fait une, mais jusqu'à un certain point, je pense. Je n'ai fait une, donc j'avais certains points qui me disaient oui, c'est intéressant, mais tu le sais jamais sans te lancer.
Non, non.
Donc tu peux jamais être certain à 100% que ton entreprise va marcher avant que tu la lances. Fait qu'une étude de marché, c'est beau, mais c'est jusqu'à un certain point, je dirais. Là.
C'était quoi ton premier client? Qui ou.
Mon premier client, ça a été les proches, vraiment. Là, j'ai des proches, j'allais voir mes amis, la famille, tout ça. J'ai voulu mettre votre espace de stationnement sur ma plateforme. Puis ma grand-mère, j'ai réussi à y créer un revenu supplémentaire. Là, fait que ça l'aide, elle, à chaque mois, tu as un peu plus d'argent. Puis c'est le fun pour l'épicerie, pour n'importe quoi. Là.
Comment ta famille te perçoit dans ton aventure entrepreneuriale?
Mais comme avant, sauf qu'il n'y a pas grosse différence. Je suis la même personne, sauf que. Je développe une entreprise, puis je m'amuse là-dedans, puis je me...
Ils sont comme habitués, des amis qui sont comme en admiration, qui essayent de vouloir travailler avec toi de cette façon ou une autre.
En admiration, non, il n'y a pas d'admiration là-dedans, mais c'est juste que le monde, il aime voir ce que je fais, puis trouve ça intéressant de voir ce qu'on peut faire même si on est jeune.
Oui.
C'est sûr que la famille, comme n'importe quelle bonne famille, sont fiers, puis aiment ça de voir que tu travailles fort, puis t'avances, mais... Tu sais, la relation change pas pour autant, là.
Il y a eu quand même une belle campagne de visibilité dans les médias. J'ai vu plusieurs articles à ton sujet. Ça, c'est toi qui as approché les journalistes directement?
Un peu des deux. Il y en a qui m'ont approché. J'ai fait des entrevues aussi. Oui. Donc, ça, c'est eux qui m'ont approché. Radio, c'est eux qui m'ont approché aussi. Donc, des deux. Si tu vois un... faut que tu sautes sur les opportunités. Si tu vois qu'il y a un journaliste qui est ouvert sur un sujet, ben tu l'approches puis tu vas voir si... qui est prêt à parler de toi. Là.
Si vous écoutez, je voulais juste faire une parenthèse, si vous écoutez l'émission pour la première fois, je voulais juste préciser que la première partie, on parle de l'entrepreneur et après, on parle de la thématique qui est l'économie collaborative. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la thématique et on va en parler justement au retour de la pause dans quelques secondes. Donc voilà, on revient après la pause.
Du 13 au 22 septembre, assistez au Festival de cinéma de la Ville de Québec. Un festival de surprises, de découvertes, d'émotions, de plaisirs, de projections, de jeux, de sourires, de stars, de premières, de vues, de rencontres, d'histoires, de parties, de couleurs, de beaux mondes, de fun noir, de grosses larmes, de cinéma. Présenté par Québécois, alimenté par Resto Plaisir en collaboration avec le Concorde. En septembre, voyez au cinéma Le Clap, Drôle de père dès le 7, The Children Act et Première année dès le 14, La disparition des Lucioles dès le 21, Les abominables petits pieds dès le 28. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca ou téléchargez notre application mobile. Bon cinéma!
De retour à l'émission Dans la tête des entrepreneurs, ici Kim Auclair, votre animatrice préférée. Alors, si vous avez été avec nous en direct à CKRL ou sur Facebook, vous avez pu entendre ce matin Liam Garneau, qui est fondateur de l'émission, en fait, fondateur de l'application Parc, qui sert à louer des espaces libres de stationnement, en fait, et tout cette... Cette application-là, en fait, fait partie de l'économie collaborative, qui est la thématique de notre émission aujourd'hui. Et si vous écoutez l'émission, le concept de l'émission, en fait, la première partie, on a beaucoup parlé de toi, Liam, en tant qu'entrepreneur. Mais là, l'économie collaborative, c'est quoi exactement?
Mais en fait, de mon point de vue, c'est une façon de s'entraider en tant que société, mais surtout d'utiliser ce qui existe déjà tout en s'entraidant ensemble.
OK.
Donc, on peut pas... Si je prends par exemple le stationnement, je pense que je suis en place pour en parler. C'est pas quelque chose qu'on peut créer, mais qu'on peut construire à pu finir là.
Non,
on verra pas des lots de stationnement. On va pas commencer à enlever des parcs pour mettre du stationnement, même si le nombre de voitures augmente dans les villes. Donc c'est là qu'est le fun de réutiliser ce qui existe déjà pour que tout le monde ait sa place sans brimer notre qualité de vie, je pourrais dire là.
Et on retrouve beaucoup d'entreprises dans l'économie collaborative. Est-ce que tu pourrais situer un peu nos auditoires pour en donnant des exemples?
Mais c'est sûr qu'on connaît les gros. Donc, Airbnb,
oui.
Uber aussi qui rentrent là-dedans. Donc, c'est eux les plus gros. Puis c'est les plus... Malgré tout, il y a des petites choses qui
dérangent.
Quand on en parle, mais c'est des très belles entreprises quand on regarde ça aussi sur...
qui sont connus quand même à l'international.
Puis s'ils sont aussi grosses, c'est pas parce que sont aussi mauvaises que ça, entre parenthèses, je pourrais dire. Là. C'est sûr qu'ici, à Québec, on est un peu réticents, mais ça devrait pas, premièrement. C'est une nouvelle façon d'agir, puis c'est une nouvelle façon de c'est le développement, là. C'est il y a une clientèle pour, puis c'est pour ça que ça grossit aussi vite que ça, donc faut pas commencer à essayer de bloquer ces entreprises-là.
Et quand on se lance en économie collaborative, j'ai l'impression souvent qu'on attaque... d'autres secteurs d'activité qui sont pas nécessairement prêts. Je pense à l'entreprise SharePass,
ouais.
Qui est le partage de billets, surtout le festival d'été et tout ça. Donc, des fois, ça rentre en compétition avec certains joueurs. Donc, ça on dérange un peu. Est-ce que j'ai raison?
Mais c'est comme n'importe quelle nouvelle façon d'agir.
Oui, c'est ça.
Quand tu viens... Tu sais, comme dans mon cas, comme j'ai dit tantôt, ça fait 80 ans que le monde sont habitués aux bornes de stationnement, par exemple.
Oui.
Donc, c'est difficile d'amener une nouvelle façon de faire dans la tête des gens. Donc, il faut vraiment que tu changes une habitude complète, là. Puis, tu sais, le monde, il aime ça être sécur, je pourrais dire, puis faire les choses comme qu'ils ont toujours fait. Donc, quand t'as avec une nouvelle façon, mais c'est sûr que le premier réflexe, c'est d'être réticent, puis je les comprends, puis c'est normal. Mais après ça, c'est quand c'est une entreprise qui est bien, comme par exemple Airbnb, quand c'est une entreprise qui est bien, c'est une grosse entreprise, mais là, faut que tu la laisses rentrer, puis tu commences à voir c'est quoi les bénéfices de cette entreprise-là aussi, là.
Quand tu as démarré ton entreprise, Liam, ouais. Est-ce que tu as regardé toutes les autres entreprises dans l'économie collaborative pour mieux connaître leur modèle d'affaires, leur fonctionnement? Est-ce que tu t'es inspiré à quelque part des modèles déjà existants?
Ben, je suis allé voir les gros, premièrement, pour voir ce qu'ils faisaient. C'est sûr que c'est le fun de se baser sur ce qui marche déjà. Autant pour voir ce qu'ils font de bien que ce qu'ils font de mal aussi. Donc, pour voir ce que les villes n'aimaient pas dans leur approche aussi. Donc, je voulais pas arriver en tout cas ça non plus. Tu sais, je suis incorporé ici, je paye mes taxis, je paye mes impôts ici. Donc, je voulais être le plus correct possible quand j'ai lancé mon entreprise. Donc, c'est sûr, faut que tu te bases sur les autres pour développer ton entreprise. Là. Ça, c'est le fun d'avoir des compétiteurs parce que tu peux voir ce qu'ils font de bien et ce qu'ils font de mal. Donc, ils font des erreurs avant toi. Donc, c'est sûr que c'est certain que tu dois aller voir tes compétiteurs en premier lieu. Là.
On parle d'économie collaborative aujourd'hui. C'est pas nouveau en soi. Tu dirais que si on a commencé à entendre de parler vers quand exactement? Tu sais-tu?
Ben, ça a commencé, je dirais, 2008-2009. 2008, c'est l'année que Airbnb a lancé.
Oui, OK, oui, c'est vrai.
2009, c'est l'année que Uber a lancé. Donc,
c'est là que ça a été un peu plus... ça existe depuis plusieurs années, mais ça a été plus propagé.
Ben, c'est ça, mais je vais faire une petite parenthèse, justement, en parlant de 2008 et 2009, c'est drôle parce que, ben c'est drôle, c'est pas drôle, mais c'est 2008, c'est l'année qu'il y a eu la crise financière.
Ah, oh, oui, c'est vrai.
Donc, le monde, c'est pour ça que les entreprises-là, ils ont grossi aussi vite. Le monde était prêt deux jours à louer leur appartement, donc faire un revenu supplémentaire pendant qu'il y avait la crise.
Oui.
Puis de soir, ils faisaient du Uber. Donc, c'est deux façons de faire plus d'argent. Donc, c'est là que ces entreprises-là sont rentrées dans le marché. Puis, c'est une chance qu'ils ont eu, je dirais. Ils ont bien développé aussi après, mais c'est une chance qu'ils ont eu pour lancer. Donc, c'est une belle opportunité qu'ils ont eu pour développer.
Ils ont vraiment lancé au bon moment. C'est une belle occasion.
Ils ont un bon timing. Ça leur enlève rien, mais ça aurait été le fun d'être dans ce timing-là, nous aussi.
Mais il y a toujours l'aspect dans l'économie collaborative, j'en ai parlé dans la première partie de l'émission, c'est l'aspect confiance, l'aspect sécuritaire. Hein. Moi, je l'ai vécu avec un Airbnb. Il y avait eu un cambriolage à l'appartement, mais c'est pas agréable comme expérience. Donc, oui, il y a des choses qu'il faut s'attendre, mais en même temps...
C'est comme dans n'importe quoi. Tu sais, je connais du monde qui se sont stationnés sur le bord de la rue pendant... une opération de déneigement, puis leur voiture est rayée sur toute la longueur à cause de la gratte. C'est des choses qui arrivent, puis il y a toujours des pour, puis il y a toujours des contre. Il faut que tu saches vivre avec, puis il n'y a rien qui va être parfait, c'est impossible. Fait que tu vis avec les deux, les deux côtés.
Et tu dirais que, dans le fond, il y a des choses dans l'économie collaborative qui ont changé dans les dernières années quand ça a démarré. On parle environ d'une dizaine d'années.
Ouais.
Vice aujourd'hui, comment tu vois l'évolution de ce secteur d'activité-là?
C'est de mieux en mieux, mais je dirais qu'on est encore au début. Juste à voir justement la réticence d'encore beaucoup de personnes, puis surtout... des villes qui sont réticentes envers Airbnb puis Uber, je trouve ça complètement, je dirais, ridicule. Tu peux pas bloquer l'évolution puis le développement. Là.
Non, non.
C'est impossible. Puis il y a un gros bout de chemin qui a été fait, mais il y a encore un gros, gros bout qui est à faire. C'est une nouvelle façon d'agir que beaucoup de citoyens sont prêts à adopter, mais il y a du monde qui met des bâtons dans les roues tout le temps, donc ça, je trouve ça...
La perception, j'ai l'impression aussi que la perception est meilleure, la réception de... Une nouvelle façon de faire est meilleure.
Est meilleure, mais n'est pas parfaite encore. Là.
Non, non, c'est sûr. Il y a beaucoup. Puis qu'est-ce qui ferait que les gens hésiteraient à partager? On parlait de sécurité, mais au-delà de la sécurité, au-delà de la confiance, qu'est-ce que les gens hésiteraient à partager un espace privé ou un appartement et tout ça?
Mais c'est du nouveau. C'est vraiment ça que je dirais. C'est quelque chose de nouveau, donc il n'y a pas tout le monde qui est encore prêt à se lancer là-dedans. Là. Mais si ça s'en vient, je le regarde déjà là. À chaque jour, j'ai une croissance.
C'est une nouvelle génération qui sont plus adaptées.
Les jeunes sont beaucoup plus réceptifs à ma façon de faire. Puis les personnes plus âgées. Mais ce qui est plate, c'est que dans mon cas, eux qui ont des maisons, mais souvent, c'est pas du monde en bas de 30 ans. C'est du monde qui sont plus âgés. Donc, c'est pas toujours facile d'aller chercher de la clientèle quand ils sont pas toujours réceptifs à ton offre.
Quel genre de commentaires que tu peux avoir quand on parle de gens qui sont pas réceptifs? T'es déjà refusé?
Ben, je me suis déjà fait envoyer promener par un vieux monsieur.
Ah,
ça,
oui?
Je m'en souviens, ouais.
Qu'est-ce qu'il a dit?
Il m'a dit, il pensait que je voulais le voler. Puis, c'est pas avec moi, j'ai arrêté cela, tout ça, mais. Tu sais, ça, il y a toujours du monde qui voit pas vraiment le potentiel dans ce que tu fais. Puis, c'est plate, mais c'est pas ce genre de client-là que tu veux non plus dans tes.
À force d'interviewer des gens, tu comprends un peu mieux quel genre de personne, de profil que tu veux approcher aussi.
Ouais, non, c'est sûr que tu le vois à tous les jours, tu réussis à mieux percevoir les gens qui te
parlent. Ça serait quoi le profil des clients de Parc, par curiosité?
Mais ce serait parfait, c'est un jeune qui sort de l'université de 24 ans qui veut un revenu supplémentaire, ça serait le type parfait.
Ça, c'est parfait, mais tu disais que les personnes que tu as approchées, c'est plus des personnes plus vieilles.
Mais ce qui est plate, c'est que c'est monsieur tout le monde qui pourrait être client de notre plateforme. Tu sais, c'est qui est-ce qui veut pas faire un peu plus d'argent à chaque mois, on va se le dire. C'est toujours le fun, là. Tu fais de l'argent sans rien faire. Tu rentabilises ton espace de stationnement qui est libre le jour quand tu vas travailler. Donc, c'est tout le monde qui habite dans une ville, je dirais, pour mettre leur espace en location puis en retirer un bénéfice.
Mais dans le fond, on parle d'apprentissage aussi que tu as fait dans ce domaine-là parce que tu ne connaissais pas au départ aussi. Qu'est-ce que tu as le mieux appris par rapport à l'économie collaborative en général?
Comme j'ai dit tantôt, c'est une nouvelle industrie, puis c'est mis à part ce qu'on pense. Si on regarde Airbnb tout ça, puis on se dit ok, c'est des entreprises qui ont un fort potentiel, donc ça va exploser rapidement. Donc tu te mets des fausses attentes en lançant déjà.
Quel genre de fausses attentes que tu t'es mis?
Je me suis mis, t'as toujours un arrière-pensée que ça va exploser automatiquement, mais c'est jamais vrai là. Ton entreprise ne fera pas comme ce qu'Airbnb a fait en un an, par exemple, je dirais.
Mais non. Mais donc, c'est pas parce ça, que tu mets un site web en ligne que ça va exploser, mais... là. Mais
il,
bon.
Il y en a beaucoup qui pensent ça. Ouais, c'est oui. ça le problème. Tout ce qui est histoire à succès qu'on voit en ligne, avec Internet, tout ça, c'est facile à se faire une fausse vision de ce qui va se passer. Donc, je pense qu'au début, c'est ça qui est difficile. Puis là, tu retombes les pieds terre à terre. Puis tu regardes, OK, ça peut marcher, mais j'ai ça à faire. Donc, il faut que j'élève de cette façon-là. Puis faut que je travaille plus fort que les autres.
Que tu mettes énormément plus d'efforts. Puis,
plus de temps, plus de tout. Là.
Parfait. Et comment tu décrirais un peu ton... on a parlé de ton modèle d'affaires, on parlait de l'économie collaborative un peu de façon générale. Y a-tu des règlements qui se sont ajoutés, dans le fond, dans la création de ton entreprise? Parce qu'il faut que tu rassures les gens que c'est vraiment fiable comme structure et tout ça. Ouais. Donc, comment tu es allé chercher ces informations-là? Tu as fait appel à des avocats, à des...
Mais c'est sûr que dans notre équipe, on a un avocat qui est associé.
OK.
Donc, lui, c'est tout ce qui est le côté légal. Tout. Je trouve ça intéressant d'avoir quelqu'un vraiment qui est dans le domaine, qui baigne dans le domaine, pour qu'on soit toujours correct. Donc, nous, on agit vraiment juste comme intermédiaire, un peu comme Kijiji.
Il y a des contrats qui signent tout de suite en partant?
Non, c'est tout en ligne que ça se fait. Un peu comme Kijiji, quand tu peux...
Oui.
Il y en a qui mettent leur parking sur Kijiji, donc c'est le même principe. On est l'intermédiaire, on est l'entremetteur entre les deux.
Mais j'avoue que dans ce genre de secteur-là, l'avocat, la personne, structure est vraiment importante.
Ouais, non, je dirais qu'on n'a pas le choix pratiquement.
Non, c'est ça, pour assurer les gens. Puis, ouais.
Des fois, c'est le fun aussi, tu sais, quand j'arrive, puis je me présente en tant que Liam Garneau, 21 ans, des fois, c'est le fun de voir que j'ai une équipe solide autour de moi aussi, là. Plus que moi, que je suis tout seul, puis... entrepreneur, je pourrais dire.
C'est rassurant. Ouais. Écoute, Liam, on va continuer la discussion dans quelques secondes. C'est le moment musical. What's with this De retour du moment musical. Alors, aujourd'hui, on parle d'économie collaborative et j'ai avec moi Liam Garneau, fondateur de Parc, qui est un espace, en fait, qui permet de louer des espaces collaboratifs, en fait, de stationnement libre. Et on parlait beaucoup de... Bon, on a parlé de toi en tant qu'entrepreneur, de l'économie collaborative, c'est quoi? Ouais. Et là, ben, j'aimerais qu'on revienne un peu... à toi de parler un peu des meilleurs conseils, à quoi qu'on doit s'attendre quand on se lance dans ce secteur d'activité-là qui est l'économie collaborative.
Mais comme que j'ai dit tantôt, il faut s'attendre à ce que ce ne soit pas facile au début.
Non, non. Donc, t'aides. Mais comme toute entreprise aussi.
Ouais, c'est certain, mais là, tu sais, tu as deux clientèles à aller chercher.
Ouais.
Dès le début, autant propriétaire que utilisateur. Donc, c'est ce côté-là que je dirais qui a été le plus difficile dès le début pour lancer dans ce domaine-là. Là. Donc, tu peux pas lancer l'entreprise sans avoir d'offre. Puis, c'est ça au début qui est difficile. Donc, quand j'ai lancé l'an passé, je pense que j'avais 4 espaces de stationnement sur.
Ah oui!
Sur la plateforme. Puis là, on a 230 environ.
230 déjà? Ouais. Wow!
Donc, c'est ça. Donc là, au début, tu lances avec 3 espaces. Donc, le monde, il regarde ça et il dit « OK, je mettrai pas mon parking sur ça. » Puis, il ferme automatiquement. Donc, c'est ça qui est pas facile.
Donc là, tu me fais penser, dans le fond, avant de commencer d'aller chercher d'autres personnes, c'est bien d'avoir une bonne liste de gens puis préparer un document qui va être encore plus solide.
C'est ça, je pense. Mais ça, c'est une erreur que j'ai faite au début.
Ah oui?
J'ai voulu lancer automatiquement puis sans avoir beaucoup de personnes au début, puis je pense que ça m'a fait un peu mal au début.
Ah ouais?
Si j'ai lancé, j'avais justement 3-4 espaces, donc le monde il regarde ça puis dit coudonc, t'as personne sur ta plateforme, donc pourquoi je ferais affaire avec toi? Donc j'aurais dû peut-être lancer 1 mois, 2 mois plus tard, mais commencer à monter ma banque
ta base de données, ouais, pour avoir un petit peu plus de crédibilité.
Ma banque de propriétaires, j'aurais dû.
Oui. Ouais. Donc ça serait un conseil que tu donnerais, dans le fond, d'attendre avant d'en faire un lancement plus officiel. La personne, tu lui conseilles un peu d'avoir une bonne idée des clients qu'elle veut rejoindre, mais aussi une base de données. Donc, pas nécessairement approcher. En fait, c'est un peu le même principe avec les médias. Quand on approche un journaliste, c'est moins intéressant.
Ah non, c'est
quand on n'a rien à montrer, mais quand on est capable de dire, ben, on a 320 d'espace sur un site web et tout ça. OK, là, on passe un petit peu plus sérieux.
Ouais, ouais.
Et quels autres apprentissages ou conseils que tu aurais à partager avec notre auditoire?
Ben, conseil en tant que pour l'économie collaborative
ouais,
ou en général?
Oui, un peu des deux.
Ben, c'est avoir une approche, on est dans un monde très, très virtuel, je dirais. Là.
Oui.
Pis c'est de remettre de l'avant le côté humain.
Oui.
Dans l'entreprise, c'est ce qui est le plus important aussi, de voir que quelqu'un qui...
Qui est disponible pour répondre aux questions.
Qui est disponible. Si tu veux parler sur le site web, tu sais, il y a quelqu'un qui te parle puis qui est toujours là pour toi pour répondre à tes questions. Donc ça, je pense que le monde, il aime ça. Comme mon numéro de téléphone, il est accessible sur le site facilement. Donc tu m'appelles, c'est à moi que tu parles tout de suite. Sur le site web, t'écris, c'est à moi que tu... C'est sûr que ça ne pourra pas être viable sur le long terme, parce qu'il y a une année quand tu as trop de
mais
clients, c'est là que ça...
Mais on s'entend qu'avec Airbnb, on ne parle pas au président.
Non, c'est ça, mais quand on est une petite entreprise, le monde aime ça de voir qu'ils peuvent parler à la personne qui gère tout ça.
Oui.
Donc, le monde, ça les rassure beaucoup, beaucoup aussi de voir qu'ils parlent avec quelqu'un de...
Donc, de montrer le côté accessible, si ce n'est pas le président, mais au moins de mettre un porte-parole en avant ou quelqu'un qui va vraiment...
Puis d'aller serrer des mains, puis pas juste d'envoyer des courriels, d'aller rencontrer le monde, puis de se déplacer, puis de ça, c'est important aussi.
OK, donc on retient d'attendre un peu avant le lancement, de monter une base solide de clients, puis pour approcher les plus gros joueurs, en fait. Donc, vraiment attendre un petit peu, ralentir. On parle d'afficher le côté humain, pas juste vouloir être corporatif, mais de montrer qu'il y a des personnes sympathiques derrière ça.
Il y a beaucoup de monde qui veulent développer une entreprise aussi en étant derrière leur ordinateur puis en pitonnant à longueur de journée. Puis ça marche pas. C'est impossible.
Non.
Faut que tu te mettes de l'avant. Puis c'est au final, bien souvent, il y a du monde qui vont faire affaire avec toi
plus
qu'avec ton entreprise.
Qu'avec le type d'entreprise, en fait, c'est les valeurs que tu véhicules aussi.
C'est ça, puis c'est le contact que tu as avec eux qui est plus important que l'entreprise en tant que telle.
Et rajouterais-tu d'autres choses, Liam?
Ça ressemble à ça, sinon tu me parlais de conseils à donner à des jeunes entrepreneurs.
Oui, pour les jeunes entrepreneurs, qu'est-ce que tu dirais? C'est quand même de 21 ans, on rappelle, parce que moi j'aime ça, c'est très jeune.
Mais je dirais c'est de se lancer, c'est d'essayer.
Oui, le plus tôt possible.
Ce qui est plate, on va se le dire, mais il y a plus de chances que tu te plantes à 21 ans ayant pas de background, mais c'est de le faire puis d'essayer. Il n'y a pas de recette magique dans l'entrepreneuriat. Il faut que tu te lances. Puis si tu te plantes, c'est plate. C'est vraiment très, très plate.
Mais
tu recommences après.
Puis la...
t'as appris, puis c'est le plus important. T'as appris, tu t'es fait des... T'as eu des bonnes relations, t'as eu des bons contacts. Donc, tu peux après ça, être plus facile de te relancer avec des meilleures bases plus solides. Là.
Puis là, dans le fond, toi, t'avais été à l'école. Puis entrepreneuriat de
Québec.
Oui, de Québec, qui est associé avec le Cégep Garneau. Et donc, avoir un cours d'entrepreneuriat, est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles?
Oui, c'est sûr que ça aide, ça donne des bonnes bases, mais c'est rien comme se lancer pour de vrai.
Non, c'est vrai. D'être sur le terrain, ça nous permet d'apprendre encore plus aussi.
Mais c'est comme, je dirais, le système scolaire au complet, tu sais, il y a des bases à apprendre, tout ça. Mais quand tu arrives dans la vraie vie, tu te rends compte que c'est ça.
C'est pas quand... A, B, C, D, là, c'est un peu A, Z, grec.
Ouais, c'est ça. Puis quand t'es assis sur les bancs d'école, c'est pas du tout...
Non.
Ce qui en est dans la rue, je pourrais dire. Là.
Puis, en tant que aussi jeune entrepreneur, donc dans le fond, tu as beaucoup d'apprentissage, mais comment tu fais pour un peu pas éviter de répéter les mêmes erreurs ou de vraiment continuer d'avancer? Y a-tu des trucs par rapport à ça? Excuse-moi, j'ai pas été précise, mais comment tu fais pour toujours avancer, rester positif un peu malgré les hauts et les bas?
Ben, je dirais que t'as pas le choix. Même si des fois, c'est sûr que t'as des phases plus creuses puis c'est moins facile. Personnellement, je parle.
Oui.
Tu continues à avancer puis tu lâches pas, là. T'sais, ton entreprise, elle repose sur toi, donc tu peux pas laisser tout ce monde-là tomber, je dirais, là.
En un an, t'as eu des passes creuses.
Non, mais tu comprends-tu, des fois, tu te remets. Mais ça fait un an que j'ai lancé, mais j'ai travaillé un an et demi avant sur le développement.
Oui.
Donc, tu sais, à un moment donné, tu dis, ça va-tu marcher, ça va-tu pas marcher? Tu te remets en question tout le temps. Fait que des passes creuses, peut-être que c'est un peu un gros mot pour. Mais tu sais, t'as toujours des remises en question, puis tu te dis, coudonc, c'est sûr que je peux pas arrêter, donc tu continues à avancer, puis tu.
Dirais-tu que tu sens imposteur des fois?
Non.
Non?
Non.
Non, du tout.
Imposteur, non. Tu te caches de rien, puis tu continues à avancer. Imposteur, je pense pas que c'est le
peut-être
bon mot.
Parce que c'est souvent un sentiment, quand on est jeune, qu'on n'a pas nécessairement de background dans un domaine précis. Moi, je l'ai vécu aussi, fait que dans le fond, je me disais peut-être que tu sentirais imposteur, mais tu sens en contrôle pas mal de tes choses.
Quand j'approche des personnes, je dirais que je reste toujours moi-même, sauf que je change ma façon d'approche. Donc, je me mets jamais dans la peau de quelqu'un d'autre, je pourrais dire, là.
Oh.
Quand je te parle, puis je te sers la main, si tu parles à Liam, puis tu parles à personne d'autre, là. Sauf que c'est sûr que des fois, je vais être plus sérieux, moins sérieux. Il y a des façons d'approcher certains types de personnes, là.
Et quel est ton meilleur conseil pour quelqu'un qui se cherche une idée? Parce que c'est souvent la problématique, on veut lancer une entreprise. Ouais. Comment qu'on doit, où c'est qu'on va aller chercher pour nos idées?
Mais premièrement, tu cherches pas une idée, tu cherches un problème.
Oui, c'est vrai.
Et l'idée vient après le problème.
Non, dans le fond, toi, pour rappeler un peu les gens sur le comment ton application est née, bien, dans le fond, tu as vécu un problème dans le stationnement, puis tu as voulu résoudre...
C'est juste une façon de résoudre le problème que je vivais. Donc, c'est définir un problème dans la société qui est mal réglé ou qui n'est pas réglé du tout, puis amener une nouvelle façon.
Une nouvelle façon de faire.
De le régler. Je pense que c'est la meilleure façon de trouver une idée pour une entreprise.
Et par rapport au modèle d'affaires, quels sont tes conseils par rapport à ça? Est-ce que ton modèle d'affaires en cours de route a dû être réajusté?
Le modèle d'affaires, j'ai pas fait de modèle d'affaires de 42 pages. Ça, je n'ai jamais fait, mais c'est... Ce modèle d'affaires, je pense que c'est quelque chose que dans le temps, il change, là.
Oui.
Donc, il ne faut jamais que tu restes ancré sur ton modèle d'affaires du début, sinon c'est là que tu vas te planter. Il faut toujours qu'il soit en développement, puis que tu le réécrives, puis tu le modifies tout le temps.
Donc, tout est vraiment en changement, content changement. Il faut être capable de s'adapter énormément.
C'est ça. Il faut que tu sois réceptif à ta clientèle aussi, ce qu'ils te disent. Il faut que tu regardes aussi ce qui marche, puis ce qui ne marche pas. Il faut toujours que tu te re-questionnes sur ce qui marche, puis ce qui ne marche pas dans l'entreprise. Puis les points qui fonctionnent, tu travailles plus fort sur ces points-là. Puis les points qui ne fonctionnent pas, ben tu trouves une façon les modifier.
Écoute, Liam, je retiens beaucoup de conseils de ta part pour les jeunes qui veulent se lancer, vraiment d'avoir un problème à résoudre, de pouvoir s'adapter énormément au marché, d'être à l'écoute de ses clients, aussi l'économie collaborative, de bien s'entourer pour rassurer les clients, attendre un peu avant d'annoncer la grande nouvelle, donc aller chercher des une base de clients avant d'approcher les plus gros joueurs. Énormément de patience aussi. Écoute, ça m'a fait plaisir de te recevoir en onde avec moi. J'espère que tu as apprécié ton expérience.
Oui, merci.
Mais oui, écoutez tout le monde. Comment qu'on peut te rejoindre en fait, Liam?
Mais en fait, pour le site web, c'est espaceparc avec un k.com.
Oui.
Donc espaceparc.com. Ouais, la page Facebook. Quand vous allez sur le site, dans le bas, vous avez la page Facebook, la page Twitter, Instagram, vous avez toutes les informations. Vous avez aussi les infos pour l'application sur notre site web.
Oui.
Donc allez la visiter.
Téléchargez l'application.
Vous allez tout retrouver. Pour l'instant, elle est juste sur iOS, mais la version Android, elle s'en vient là, sous peu.
Parfait. Alors, pour ceux qui nous écoutent en ce moment, la prochaine émission, on va parler des sous. Commerce électronique en ligne. Donc, je pense que ça va être super intéressant. Si vous avez des commentaires, des questions, des suggestions, des missions d'invités, de sujets, en fait, vous pouvez m'écrire à ckrl@commercialnevity.com. Vous pouvez rejoindre aussi, si vous êtes un entrepreneur, la page Facebook Dans la tête des entrepreneurs. Il y a un groupe Facebook. On est quand même rendu à plus de 9200 personne. Alors, c'est quand même très animé. Aussi, vous pouvez toujours m'écrire personnellement à kim@commercialnevity.com. Alors, pour moi, c'était vraiment un plaisir de vous retrouver pour cette émission. Pour qu'est-ce qui est de la prochaine émission à CKRL, c'est univers francophone, donc, ou presque. Alors, je vous laisse là-dessus et on va prendre un moment publicitaire avant de passer à la prochaine émission. À bientôt!
Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes.
Ne dis pas que j'ai tort, surtout. Ne dis pas que c'est doux. Laisse le feu qui dort, surtout. Ne parle pas de nous, ne parle pas de toi.
89.1 Québec.
Ni de tes instincts de juillet. Laisse faire la soie. Ce beau rêve à tes poignets.
Vous écoutez CKRL 89.1. Cultive tes goûts.
Surtout ne dis pas que tu m'aimes. Surtout ne dis pas que tu m'aimes. Que tu m'aimes.
Être membre de CKRL?
Parce que vous l'aimez à la folie. Et aussi parce que vous économisez 15% à la bijouterie Michel Bello, 400 boulevard Jean Lesage.
Devenez membre sur ckrl.qc.ca.
Le 1er octobre, c'est jour d'élection générale au Québec. Pour voter, vous devez être sur la liste électorale à l'adresse de votre domicile. Assurez-vous que votre nom apparaît sur la carte d'information que vous recevrez par la poste. S'il n'y figure pas, présentez-vous à l'adresse indiquée sur votre carte d'information du 10 au 27 septembre. Vous pouvez également vérifier votre inscription au www.élections.québec ou au 1-888-ÉLECTION. Tous les votes sont importants. Le 1er octobre, à vous de voter. Un message d'Élections Québec.
Le 9 septembre prochain, venez vivre Limoilou en famille Desjardins. De 10h à 16h, la 3e avenue s'animera le temps d'un événement festif. Au menu, spectacles et animations en continu. Pico Larouche, les chats de ruelle, science en folie, les jeux rétro du Mini Warp Zone, contes, lectures, dessins, ateliers de percussion, yoga en famille, jeux géants et jeux gonflables. Limoilou en famille, une invitation du conseil de quartier du Vieux-Limoilou, de Limoilou en vrac, de l'initiative 1-2-3 Go Limoilou, en collaboration avec la Caisse des Jardins de Limoilou et la Ville de Québec. Programmation monlimoilou.com/enfamille.
Vous êtes artiste et vous cherchez un nouveau défi? CKRL lance le concours Talent en scène à la Korigane dès le 4 septembre. Chant, musique, poésie, slam, humour, soyez l'un des 32 artistes à participer à notre concours. Vous pourriez gagner un spectacle avec cachet dans la programmation 2019 de la Korigane, une campagne publicitaire d'une valeur de 1 000 $ à CKRL, une session live enregistrée ou encore une séance photo professionnelle. Inscrivez-vous dès maintenant sur notre site ckrl.qc.ca. Les sélections ont déjà commencé.
89.1
Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager.
Production Rhizome, Association canadienne pour la santé mentale filiale de Québec. Antitube, Espace sans mesure, École de cirque de Québec.
Ils ont choisi d'appuyer CKRL.
Univers francophone vous est présenté par l'Hôtel Château-Laurier Québec. Elle est la première entreprise franco-responsable et engagée dans le développement